sommes en train d'achever une semaine consacrée aux enseignements des papas, mais aussi de toute la famille. Je voudrais ajouter à cette lecture qui a été faite un autre verset, Actes des Apôtres chapitre 20 et le verset 24, un seul verset. Actes 20, verset 24. Je n'attache d'ailleurs vraiment aucun prix à ma propre vie. Mon but, c'est de mener à bien ma course et le service que le Seigneur Jésus m'a confié, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu, parole du Seigneur. Ce matin, le thème autour duquel nous allons circonscrire le message, le foyer chrétien, un cadre d'influence pour un discipulat véritable. Le foyer chrétien, un cadre d'influence pour un discipulat véritable. Le mardi, nous avons eu un tout premier enseignement sur le portrait du Père, disciple du Christ. Le texte qui a été lu, c'était Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 21. Dans ce message, il nous a été dit que le Père, qui effectivement doit nécessairement être disciple du Christ, doit s'inscrire ou inscrire sa vie dans la dynamique d'imiter Dieu, Dieu qui est amour. Il faut donc que dans sa vie, on constate que c'est un Père qui aime ses proches. Deuxième chose, il doit être marqué d'une vie sainte, c'est-à-dire une vie par laquelle il s'éloigne de toute souillure, marcher dans la sainteté, dans la recherche de ce qui plaît au Seigneur. Troisièmement, il nous a été dit qu'il faut qu'il vive dans la lumière, parce qu'il y a des œuvres de la lumière, mais aussi des œuvres des ténèbres. Il faut qu'on constate que dans son comportement au quotidien, il vit dans la lumière. Et enfin, il doit être rempli du Saint-Esprit. Le mercredi, autour du thème Père visionnaire et guide dans chaque étape de sa vie, le texte était Luc chapitre 24, versets 25 à 35. Quatre choses ont été dites. La première, c'est qu'il est appelé à aimer le Christ plus que son père, plus que sa mère, plus que sa femme, plus que ses enfants, parce que le Christ doit occuper la première place dans notre vie. Ce n'est pas une place secondaire, ou c'est la première, ou rien. S'il n'occupe pas la première place, ce qui n'est pas Seigneur dans notre vie. La deuxième chose qui a été soulignée, c'est qu'il faut que le disciple porte sa croix. Porter sa croix ne signifie pas fabriquer une grosse croix et commencer à la transporter pendant la journée, mais c'est surtout supporter les moqueries à cause du Christ chaque jour. Être prêt à mourir à cause de son engagement pour le Christ. D'ailleurs, Galates chapitre 2, verset 20, il dit mieux. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Troisième, il faut calculer la dépense avant de s'engager dans la vie de disciple. Il faut s'asseoir, il faut réfléchir, il faut méditer, il faut se dire, si je commence, il faut que j'aille jusqu'au bout. Parce que ça ne sert à rien de commencer, si à un moment donné, je vais m'arrêter à mi-chemin. Tu serais semblable à quelqu'un qui a commencé un chantier et qui l'a abandonné. Tout simplement, les gens qui passent vont dire, celui-ci n'a pas eu à s'asseoir pour calculer la dépense. Et pour terminer, il y a un père de l'Église, un certain Grégoire le Grand, qui a dit une parole assez profonde. Si nos cœurs pouvaient voir le visage et la valeur de tout ce qui nous est promis dans le royaume au ciel, nous serions amenés à vendre tout ce que nous avons ici sur la terre. Notre message autour de foyer chrétien, cadre d'influence pour un discipulat véritable, a trois principaux points. Le premier point, c'est que je vais montrer que le père de famille, c'est un leader, comme on le dit. Le deuxième point, c'est que le père de famille, c'est un homme, en tout cas un leader d'influence. Et enfin, nous allons partager sur les responsabilités mutuelles. Quelle est la responsabilité du mari? Quelle est la responsabilité de la femme dans un couple chrétien. Alors, le père de famille est un leader. Que signifie un leader? Un leader, c'est celui qui est appelé à gérer un groupe dans le but de réaliser une vision ou alors d'accomplir une mission. On ne s'assoit pas comme leader, mais on a un objectif. On a une vision à mettre en œuvre, un objectif à atteindre, une mission à réaliser. Son leadership, donc, en tant que père de famille, doit influencer les autres. Les autres, c'est qui? C'est sa femme, ses enfants et tous ceux qui sont dans sa maisonnée. Il faut qu'il soit en mesure de les influencer à la fois par ses pensées, par ses comportements, par les croyances, on pourrait même dire aujourd'hui la foi et les valeurs pour remplir la mission qui lui a été confiée par le Seigneur. Alors c'est ça qui nous amène au deuxième point, le père de famille, c'est un leader d'influence. C'est un homme d'influence, il peut influencer positivement, tout comme il peut influencer négativement. Mais nous ici, nous parlons d'une influence positive. Si vous avez un père solaire, vous risquez aussi de devenir solaire. Si vous avez un père qui ne tient pas ses promesses, vous risquez de le rejoindre dans cette voie-là. Nous devons savoir en tant que parents, en tant que père, que nous avons un rôle à jouer devant le Seigneur. Nous ne sommes pas devenus mari pour rien et mari chrétien pour rien. Nous le sommes parce que nous devons positivement influencer les nôtres. Mais il n'y a pas que l'homme. Il y a aussi la femme qui doit être influente et qui doit exercer son influence aussi bien dans son foyer qu'à l'extérieur. Il a été établi dans la recherche qu'un homme ou une personne tente d'influencer au moins quatre personnes par jour. Et ceux qui ont une plus grande influence, il semble qu'ils arrivent à 17 fois par jour. C'est-à-dire que consciemment ou inconsciemment, nous pouvons influencer des gens autour de nous. C'est ainsi que ce que nous disons, ce que nous faisons, les habitudes que nous avons, que nous intégrons dans notre manière d'être, ont une influence, que nous le sachions ou pas. Alors le père de famille, en tant que leader dans sa famille, est appelé à revêtir une influence spirituelle. C'est à ça qu'il est appelé. On ne donne que ce qu'on a. Si tu as une certaine, ta vie a une certaine dimension spirituelle, tu marqueras ton entourage, tu marqueras ta femme, tu marqueras tes enfants. Et donc, les habitudes que tu cultives ou que moi je cultive, dans ma vie de disciple chaque jour, va influencer ceux-là qui me sont proches. Parce que nous parlons d'un père de famille qui est disciple. Nous devons savoir, bien aimé, comme je le dis souvent, que le disciple, ce qui le caractérise, c'est la discipline. Les deux fondent une certaine assonance, disciple-discipline. Un homme de Dieu a dit qu'avant de conquérir le monde, le leader spirituel doit se rassurer qu'il conquiert d'abord son propre cœur, qu'il se conquiert lui-même. Il doit donc faire le meilleur de lui-même pour se conquérir d'abord lui-même. Parce que nous sommes ce que nous sommes, l'environnement ce qu'il a fait de nous, mais nous devons réussir en tant que disciples de Christ, regarder à nous-mêmes pour voir à quel niveau nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Et nous conquérir nous-mêmes. Notre façon de vivre doit démontrer que nous nous sommes déjà conquis nous-mêmes. la façon de vivre notre foi. Notre vie de prière, s'il en est une, doit aussi démontrer que nous sommes un leader spirituel. Notre vie de méditation disciplinée de la parole de Dieu doit démontrer que nous sommes un leader spirituel. Et cela va laisser des traces derrière nous. En famille, va laisser un impact. Nous oublions très souvent que la vie est très courte. La vie est très courte. Et parce qu'elle est courte, nous devons la vivre avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de sérieux. Parce que les enfants que le Seigneur nous donne, si nous avons la grâce, nous les aurons jusqu'à l'école secondaire. Parce que ceux qui restent chez nous à l'université, et aussi, s'ils évoluent bien, ils évoluent bien, 21 ans, 22 ans, ils sont partis. C'est trop peu. Trop peu. Ce temps-là, nous devons l'investir. La vie est aussi courte, hein, celle que Dieu nous donne de vivre dans le mariage. Ce n'est pas très long, parce que d'un moment à l'autre, la mort peut arracher l'un de nous. Mais qu'est-ce que l'autre dira lorsque je serai parti? On était allé enterrer un pasteur et pendant qu'on était en train de finir l'enterrement, on a fait des discours, on a fait des éloges du pasteur. On a beaucoup dit par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a fait comme serviteur de Dieu dans l'église. Et sa femme était là, sa fille aussi était là. La fille a posé la question à sa mère, elle a dit, « Maman, on parle de qui ?» Sa mère lui dit, « On est en train de parler de ton père. » Elle dit, « Ah, mais ces gens connaissent notre père différemment de la manière dont nous les connaissons. » Vous voyez, ça doit nous faire réfléchir, bien-aimés. Comment pouvez-vous être pasteur très influent dans l'église, mais vous n'avez aucune influence dans votre propre maison? Ancien de l'église, très influent dans l'église, mais sans influence dans sa propre maison. Responsable des ministères dans l'église, mais sans influence dans sa propre maison. Responsable de la chorale, responsable de la jeunesse, mais sans influence dans ta propre maison. Tu dois t'arrêter, réfléchir et me dire, il faut que ça cesse. Avoir de l'influence dans sa propre maison exige aussi un don de soi, un sacrifice, j'en parlerai tout à l'heure, un brisement de cœur pour sortir, pour descendre de son trône et se rendre compte que l'on est aussi un homme comme les autres, une femme comme les autres, au service des autres. Je devrais me reconnaître comme étant prioritairement au service de ma femme, au service de mes enfants, au service de l'Église, au service du Seigneur. Évidemment, le Seigneur occupe la première place, mais oublier que tout cela, ça va me créer des problèmes. Si donc je suis disciple du Christ et que je suis chef de famille, je dois avoir quelque chose de grand. Et c'est quelque chose de grand que je dois transmettre, c'est la présence de Dieu, la présence du Christ dans ma vie. Les enfants, l'épouse chercheront à vivre cette onction que je transmets quand je me tiens debout dans l'église. Les gens qui sont autour de moi devront aussi voir que je suis vraiment un leader. Bien-aimés, nous voulons que le Seigneur nous accorde sa grâce. Alors la responsabilité, c'est le troisième et dernier point, responsabilité mutuelle dans les couples. La première chose que nous devons affirmer ici, c'est que nous devons créer un environnement d'influence en famille. Comment cela se fait? Le verset 21 de Actes des Apôtres, chapitre 5, nous a bien dit, soumettez-vous les uns les autres. Cette soumission mutuelle concerne à la fois l'homme qui se soumet à sa femme, concerne aussi la femme qui se soumet à son mari. Cette soumission mutuelle est la première chose qui doit être faite pour être en mesure de créer une zone d'influence, un environnement d'influence en famille. Pourquoi ? Parce que en Galates chapitre 5, verset 13, il y a une règle qui dit que par amour, aimez-vous, mettez-vous au service les uns des autres. Mais en Philippiens chapitre 2, le verset 3, avec humilité, considérez-vous, considérez les autres comme supérieurs à vous. Cette capacité de considérer les autres comme supérieurs de moi, ou cette capacité de me mettre au service des autres, c'est ça qui va m'aider, une fois en famille, parce que c'est une règle pour tous les chrétiens, de comprendre que je ne suis pas un mari qui dit à ma femme, la Bible dit, soumettez-vous à vos maris. Non. Elle le sait, si elle est chrétienne, elle le sait. On n'a pas besoin de le lui dire. Mais la première chose à faire, c'est que nous deux là, nous devons nous respecter mutuellement, c'est ça, se soumettre. Nous devons nous aimer mutuellement. On doit se rendre compte que cet amour n'est pas en sens unique, où je m'aime moi-même, où je veux que l'autre m'aime. Je me respecte moi-même, je veux que l'autre me respecte. Mais je fais un effort pour le faire, d'abord, vis-à-vis de mon conjoint, vis-à-vis de ma conjointe. La deuxième chose, c'est que la femme doit être soumise à son mari. C'est ce que dit le verset 22. La femme doit être soumise à son mari. Mais pourquoi? Il y a deux raisons fondamentales. C'était ça le message que j'ai donné jeudi. D'abord parce que le mari est le chef. C'est ce que la Bible dit. Le mari est le chef de la femme. Ephésiens chapitre 5 et le verset 23. Le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église, lui le sauveur de son Église, de son corps. En fait, le terme qui est utilisé là, ce n'est pas le chef. Le terme grec qui est utilisé, kephalē, signifie que l'homme est la tête de la femme. Comme Christ est la tête de la tête de l'Église. Alors la tradition qui a donné le terme chef nous a induit à chercher à imposer notre chefferie en famille. C'est vrai, nous sommes la tête. Je voudrais qu'on insiste sur la tête. Nous sommes la tête de la femme. La tête, c'est que l'homme et la femme restent égaux devant Dieu. Selon Galates chapitre 3, verset 28. Mais Dieu a établi un ordre hiérarchique. Et l'ordre hiérarchique, c'est qu'il y a d'abord la tête. Mais cette tête joue quel rôle? Cette tête assure la coordination du ménage. C'est ça le rôle de chaque mari qui est ici. Ton rôle, ce n'est pas de dominer. Mon rôle, ce n'est pas de dominer. Ma responsabilité devant Dieu, c'est d'assurer la coordination du ménage. Ma responsabilité, c'est d'assurer le bien-être de tous dans ma famille. Alors, si le mari n'assure plus le bien-être de tous, il a son argent à la fin du mois. Et il arrive à la maison, il a déjà tout bousillé. Il est toujours la tête. Ou alors il est la tête qui s'oublie, qui oublie qu'il doit assurer la responsabilité du ménage et le bien-être de tous. Ou alors, il ne le sait pas. On nous a parlé d'une dame qui avait un mari soulard, irresponsable, je pouvais dire d'ailleurs. Chaque fois qu'il avait l'argent, cet argent, il allait boire. toute fois qu'il a l'argent, il va boire. Et puis c'est tout pour lui. Ce qui l'intéresse, c'est l'alcool et les femmes. Alors un jour, sa femme qui s'est démenée pour faire survivre la famille a pris l'argent du loyer. Il a demandé à son mari d'aller donner cet argent au bailleur. Vous pensez que cet argent va arriver chez le bailleur? L'argent n'est pas arrivé. Alors lorsque le deadline est arrivé, qu'il fallait qu'il quitte, qu'il paye, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas payé. La femme a constaté qu'il n'a pas payé parce que le bailleur est venu réclamer son argent. Et on les a chassés de la maison. Est-ce que ce mari-là est la tête? Ou il a une responsabilité qu'il ignore ou ne l'assume pas? Mais nous parlons ici des gens qui sont dans l'église et qui doivent le savoir. Troisième chose qui est demandée à la femme, elle est soumise à Christ comme l'église est soumise à Christ. De même que l'église est soumise à Christ, c'est dit le verset 24, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. En toutes choses. J'insiste sur le fait que cette soumission n'est pas une soumission aveugle. Ce n'est pas une soumission qui dégrade la personne de la femme. Ce n'est pas une soumission qui dévalorise la femme. Ce n'est pas non plus un esclavage, ni une adoration de la femme. Il y a des femmes qui adorent leur mari, au point de dire amen à tout. Il est en train de pleuvoir le matin, on doit aller à l'église, et puis le mari vous dit, restons en train de dormir, on ne va pas à l'église aujourd'hui. Et toi tu dis, amen. Parce que la Bible dit, soyez soumises à vos maris. Il y a une soumission aveugle. Une femme ici à Goma, son mari a tué son enfant. Et il a tué comment? L'enfant de 16 ans a donné seulement de l'eau au voisin. Parce que le voisin, il n'était pas de bons amis. Il a dit, pourquoi tu as donné de l'eau à ces messieurs-là? Alors je vais te sanctionner. Il a battu à mort. La fille est morte. On l'a amené à Mounzenze, ici à Goma. Arrivé à Mounzenze, il a été condamné, vraiment condamné. La femme a commencé à venir tout le temps à la prison, passer la journée là-bas. Fungula wanango, fungula wanango. Elle est passée dans tous les bureaux en train de chercher comment on va libérer son mari. Finalement, le juge en avait marre. Il avait tellement marre qu'il a dit, bon, libérez ce monsieur-là, on l'a libéré. Alors, la femme était contente que son mari, qui est peut-être un démon, est retourné à la maison. Quelques mois après, la femme tombe grosse. Et puis la femme dit, cette grossesse, c'est pas la mienne. Ça doit être ces gens-là chez qui tu allais chercher qu'on me libère. Vous pensez qu'il a fait quoi? Il a chassé la femme. Vous voyez, que feriez-vous à sa place? Je pose cette question aux femmes. C'est un TP. C'est un travail pratique. Que feriez-vous à sa place? Mais il y a des maris qui sont comme des démons. On pourrait penser l'incarnation du diable dans la famille, qui ne fait que détruire, qui ne font que plonger la famille dans la confusion, dans la disette, dans la pauvreté. Les enfants ne vont pas à l'école, même s'ils y vont, ce n'est même pas lui qui paie les frais scolaires ou les frais académiques. Et il se présente là, ici en Afrique, quand sa fille va être mariée, on dit « Baba Afrique ». Et c'est ce père-là qui va venir. Vraiment l'Afrique, c'est celui-là, l'irresponsable, qui n'a rien fait depuis que l'enfant est né jusqu'à ce que l'enfant est marié. Bien-aimé Goma West, ne soyez pas de ces gens-là, s'il vous plaît. Assumons nos responsabilités pour que nous soyons véritablement la tête. J'ai dit donc aux femmes, la soumission n'est pas une soumission aveugle. Cette soumission La parole de Dieu le dit, elle doit être en toutes choses. Ça, c'est vrai. Mais jusqu'au point où le mari ne vous conduit pas à être en flagrance avec la volonté de Dieu. Alléluia. Les mamans, vous êtes là? Jusqu'au point où il ne vous met pas en flagrante contradiction avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des jeunes couples où la femme tombe grosse et tu dis avortement. Avortement ou rien. Comment on peut arriver à ça tout en étant dans l'église? Comment on peut arriver à ça? C'est vrai qu'il y a aussi des jeunes filles qui font des rapports sexuels et le lendemain, elles prennent ce qu'on appelle aujourd'hui la pilule du lendemain. Elles le font allègrement, sans aucune conscience. Elles croient que c'est normal, tout le monde le fait. Non! Non! Je suspecte même qu'il y en a eu qui ont avorté et qui ont demandé pardon après l'avortement et se sont tués. Vous croyez que vous allez en sortir? Vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas garder ça pour longtemps. Ça ne va même pas s'effacer. Ça va rester dans votre subconscient. Je crois vous avoir déjà raconté une histoire d'une fille qui avait rompu une grossesse. Après beaucoup d'années, j'ai prêché. Elle est venue me voir et m'a dit, « Pasteur, je crois que tu parlais de moi. » Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a entendu que je disais? Je disais que quand une fille ou une femme rompt une grossesse, ça reste en elle. Parce qu'une année après, quand elle voit un enfant, elle dit, « Mon enfant aurait cet âge-là. » 6 ans après, elle dit, « Mon enfant aurait cet âge-là. » 7 ans après, elle dit, « Mon enfant aurait cet âge-là. » 10 ans après, elle dit, « Mon enfant aurait cet âge-là. » Vous pensez que cette personne va oublier ça? Il faut l'intervention, la grâce de Dieu, et même l'intervention d'un serviteur de Dieu pour que vous puissiez vous en sortir. Alors, au mari, selon le verset 21 à 33, au mari, la parole de Dieu dit qu'il doit aimer, surtout le verset 25, il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. J'ai essayé de parcourir ce texte dans le texte grec. Je me suis rendu compte que partout on utilise le verbe agapao, agapé. D'où vient le terme agapé? Le verset 25, je l'ai traduit de cette manière. Les hommes aimaient agapate. C'est un impératif. Les femmes, comme aussi le Christ a aimé, agapé sen. C'est un passé composé ou alors un passé composé. Agapesen. Comme Christ a aimé l'Église et lui-même s'est livré, on pourrait dire s'est remis au tribunal, s'est livré ou s'est remis au tribunal pour elle. Alors ce verbe agapao, d'où nous tirons le mot agapé, nous rappelle l'amour don de soi. Ce n'est pas un amour sentimental, érotique. Tu dis, chérie, je t'aime. Vraiment, je t'aime. Aujourd'hui, on dit, mon bébé. Même les hommes, comment est-ce qu'on peut les appeler mon bébé? C'est un amour don de soi. C'est un sacrifice à payer. Il y a un coût à payer pour démontrer à la femme qu'on l'aime. C'est donc l'homme qui doit valoriser le mariage. C'est lui qui commence, parce que l'amour est même plus difficile que se soumettre. Le mariage est une affaire de l'homme qui doit prioritairement aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il doit être prêt à se sacrifier pour la personne qu'il a aimée. Et cela a un coût en termes de la manière de la traiter, en termes de la manière de la respecter, de la protéger, en termes de la manière dont tu dois la garder belle, attrayante, un peu comme une jeune fille là, comme tu l'as aimée depuis qu'elle était jeune fille. Tu dois donc intégrer dans ta manière de traiter ta femme, en tout cas cet amour, sacrifice et l'amour don de soi. Et je suis convaincu que les femmes ne sont pas compliquées comme nous les hommes. Quand tu aimes une femme, elle va se soumettre. Alléluia. Elle va se soumettre. Si elle ne se soumet pas, c'est qu'il y a le diable qui est en train de travailler en elle. Il faut la traiter avec respect, se mettre à son service avec amour, lui démontrer par cet amour visible, concret, que tu t'es sacrifié pour elle. En le faisant, tu es en train de sauver ta famille. Alors, les versets 31 à 32 que nous avons lus disent « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux ne seront qu'une seule chair. » Ce mystère est grand. C'est un grand mystère aux yeux de Dieu que l'homme quitte son père, qu'il quitte sa mère, qu'il aille s'attacher à sa femme, pas à ses femmes, et que les deux s'engagent dans une entreprise d'être une seule chair. C'est là le mystère de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est dit, la femme doit se soumettre à son mari comme Christ, comme l'Église est soumise à Christ. Et l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il y a un lien dans la vie conjugale, dans le foyer, entre nous et le Christ. La présence du Christ dans notre foyer est une présence qui effectivement doit valoriser la présence du Christ, doit valoriser cette présence. Et c'est là deux choses. Le mari doit aimer sa femme comme Christ. La femme doit se soumettre parce que le mari est la tête, mais aussi et surtout parce que l'Église est aussi soumise à Christ. Alors, selon Éphésiens chapitre 6, verset 4, les deux parents ont des enfants. Ils doivent faire un effort pour ne pas révolter les enfants, selon ce verset 4 du chapitre 6, mais les élever et leur donner une éducation et des avertissements inspirés par l'Esprit. Il ne faut pas dorloter les enfants au point de les empêcher de croître. Il faut les élever, les éduquer, leur donner des avertissements s'il en faut, parce que en le faisant, vous êtes en train de les sauver de la mort. Mais il y a des enfants qui souffrent dans des foyers parce qu'ils sont incompris par les parents. D'ailleurs, c'est au père qu'il est demandé de faire un effort de ne pas révolter son enfant. Le père ne doit pas révolter son enfant. Il ne faut pas le maltraiter, il ne faut pas le malmener. Il ne faut pas non plus le scandaliser, parce que si vous le scandalisez, il va perdre les pédales. Il va perdre les pédales. Je connais un ami qui a un problème avec son fils aîné, tout simplement parce que depuis que l'enfant était à l'école primaire, il disait, chez moi, on y entre à 18 heures plus tard. L'enfant est allé à l'école secondaire, cette loi n'a pas changé. Il est allé à l'université, la loi est restée la même. Vous pouvez vous imaginer, vous êtes en licence et votre père continue à vous considérer comme un bébé. Ça va vous révolter. Et l'enfant, jusqu'à ce jour, ne communique pas avec son père. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a infantilisé, il ne l'a jamais reconnu comme étant en train de grandir. Nous devons demander la sagesse au Seigneur de nous aider à faire attention, à être sage, à être prudent, à savoir, à ne pas aigrir, révolter nos propres enfants, les malmener et les maltraiter. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous accorde sa faveur. Amen.